program que fait la position à l'heure pour signifier notre accord comme quoi c'est des gens qui sont attachés au Seigneur et que c'est une façon de dire notre appréciation. On peut lire dans le psaume 92, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer de ma paix ta bonté, ta fidélité pendant les nuits, ton instrument à du corps sur le lieu, au son de l'art. Tu m'as réjoui par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » On va maintenant entendre la chorale qui a été formée dans l'Assemblée il y a quelques semaines de ça. J'ai pas le nom de tous les membres, vous allez me pardonner. Éventuellement, cette chorale-là devient plus permanente, mais on pourra la connaître demain. Donc, je demanderai à tous les membres de la chorale si vous êtes rejoindre à moi demain. Moi, je vais m'absenter.
You're right. c'est moi qui fais ça pour moi. Des livres de gratuit.
Alors, je crois que c'est un qu'on devra pratiquer éventuellement. Maintenant, il y a eu vendredi soir ce thème qui était dit dans le cœur qui nous a été résumé cet après-midi. Et puis, une des parties de ce résumé-là nous disait que tout dépendait de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Il y avait une recommandation de se demander qu'est-ce qui nourrissait nos pensées. Et puis, notre frère Serafine, cet après-midi, nous a terminé l'enseignement en nous demandant avec le thème qui était Dieu dans la famille, Dieu trinitaire y est-il dans notre famille? Donc, c'est des réflexions que l'on a à poursuivre quand ces enseignements-là sont terminés. La parole de Bernard, notre frère, va continuer ses enseignements un peu à travers, le monde, parce qu'il est souvent à l'extérieur dans d'autres continents et ici aussi. Mais nous, on a cette responsabilité-là de continuer à sonder les Écritures et puis être en relation directe et étroite avec notre Dieu. Donc, ce soir, on termine ce temps d'enseignement, ce temps de parole qui est du partage avec Dieu dans l'Assemblée, dans l'Église. Je vais vous laisser ce petit peu. Mes amis, c'est une grâce de pouvoir terminer une semaine ensemble sous le regard de notre Père des cieux, en entourant la personne de son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son plaisir, et en nous laissant pénétrer par la puissance de son Esprit qui veut faire déborder des fleuves de vie de nos cœurs. J'étais très béni ce soir en entendant cette musique et tout spécialement le cantique de la croix. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais il est possible que vous m'ayez fait rajeunir de 55 ans. Pour quelle raison? Parce que quand j'étais malade, ma mère chantait ses paroles. Elle s'accompagnait à l'harmonium et mon père jouait du violon. Et sur mon lit, j'écoutais mes parents qui chantaient spécialement pour moi ces cantiques qu'ils savaient que j'aimais. Depuis 2 ans, j'étais au Seigneur d'une façon vivante et personnelle. Mais vous m'avez fait rentrer dans ma famille, cette famille chrétienne, cette famille pieuse, où j'ai été élevé, où l'on a prié pour moi avant ma conception. Dès que j'ai pu comprendre quelque chose, mon père et ma mère m'avaient dit, nous avons prié pour toi en demandant à Dieu que s'il nous donnait un fils, nous le lui consacrerions pour qu'il soit non pas seulement l'homme d'un milieu, mais vraiment un homme de Dieu pour tous les hommes.
Et ça, ça m'avait marqué. Et dès ma plus tendre enfance, j'ai été élevé dans cette connaissance de l'Écriture sainte, mais ce n'est qu'à 13 ans que tout est devenu personnel et que j'ai eu vraiment ma rencontre avec Jésus-Christ. Et que tout ce qu'on m'avait enseigné m'a vraiment pénétré. Ce n'était plus des disques, des paroles que j'avais entendues, mais elles avaient pénétré mon cœur. J'avais passé par une conviction de péché profonde qui m'avait empêché de dormir toute une nuit. Conviction de péché en pensée, parce qu'évidemment, élevé par des parents pieux et avec une grande sévérité, bien des péchés habituels chez nos camarades avaient été évités pour moi, de sorte que ceux qui me connaissaient pouvaient me prendre pour un petit saint, alors que je n'étais pas du tout. Quand le Seigneur m'a révélé mes pensées, et que, à ses yeux, de mes pensées, pouvaient me conduire à des paroles et à des actes. Je me souviens très bien d'une gifle que j'ai reçue de ma mère, quand, petit gars, je rentre de l'école, elle me demande quelque chose au sujet de je ne sais plus quoi, mais je lui ai montré mon ignorance en disant ma foi non. Paf ! Parce qu'on ne dit pas ma foi. C'est un mot sacré, c'est un mot saint. Je ne veux plus te l'entendre dire. Non, vous savez, ça nous marque. Je bénis la main de ma mère. Vous savez, et c'est bon d'être pris. Et c'était pas parce qu'elle me voulait du mal, mais elle me voulait du bien. Et elle ne voulait pas que certaines paroles passent légèrement sur mes lèvres. Alors, ce qui m'a touché, c'est surtout ce cantique, ces paroles, parce que je les connais, et tout ce que vous avez chanté, c'était ce que ma mère aimait en particulier aussi, et mon père. J'aime de Jésus à proclamer l'amour. Et puis, ça me replongeait dans ce Gethsémané, mais ils l'ont fait souffrir. Ils l'ont crucifié parce qu'il l'a tant aimé. Ils l'ont tant aimé. Est-ce que nos cœurs se sont endurcis quand nous pensons à Jésus? Demain matin, vous allez vous réunir ici. Et qu'allez-vous faire? Un geste machinal rappelant la mort du Seigneur dans la fraction du pain, manger un morceau de pain, boire une gorgée de vin, en pensant peut-être à toute autre chose, donc ce n'est pas possible. Vous allez être dans le recueillement et vous allez repasser dans vos cœurs, chacun individuellement, cette histoire de Jésus. Nous avons chanté ce cantique à la fin de notre rencontre cet après-midi. Redites-moi l'histoire. Cette merveilleuse histoire à laquelle on ne s'habitue pas. Et voyez-vous, au mois de mai, j'étais à Québec devant un auditoire composé uniquement de catholiques romains. Et il y avait là un prêtre de 75 ans qui confessait qu'un jour, à Gethsémané, il m'avait entendu parler de l'agonie du Sauveur. Et ce prêtre disait qu'il avait été complètement bouleversé et il s'est mis à pleurer devant tous. En pensant à ce moment où en 1972, lors d'un pèlerinage, nous avions été appelés à présenter Jésus en agonie, lorsque sa sueur était semblable à des grumeaux de sang qui coulaient de son front sur la terre. Et vous savez, j'étais bouleversé, je ne pensais pas que cet homme avait pu être touché ainsi. Puis nous avons parlé ensuite, et il disait que sa vie avait été changée. C'est la personne du Seigneur que nous devons présenter aux âmes. Où que nous soyons, quel que soit notre auditoire, nous devons chercher à aimer Jésus et à présenter Jésus aux âmes. C'est à lui qu'il faut être attaché. Et mon seul but, c'est de remplir les cœurs de Jésus-Christ. Mais quand on remplit les cœurs de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on apprend? Qui était dans Jésus-Christ? Qui était en Jésus-Christ? Le Père était en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Et si on remplit les cœurs de Jésus-Christ, vous ferez cette expérience que Dieu le Père n'est pas au fond du ciel, très loin de vous, mais qu'il est aussi en vous. Tout près, en vous, vous allez descendre au plus profond de votre cœur et vous allez découvrir le Père. Comme je le disais hier, l'enfant prodigue, c'est quand il est rentré en lui-même qu'il a découvert son Père, qu'il a eu une pensée pour son Père. Et vous voyez ce que c'est la pensée. Hein? Quand il rentre en lui-même, eh bien, dans sa misère, alors qu'il est entouré de pourceaux, il dit, « Combien de mercenaires de mon Père ont du pain en abondance, et moi, je meurs. » De faim. Eh bien, je m'en irai et je retournerai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre moi et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et alors là, il prend une décision. Oui, une décision vraie. Il s'en retourne et il prépare en chemin, les paroles qu'il va dire à son Père. Et qu'est-ce qui arrive? Quand la pensée de son Père l'a dominé, ce Père dont il avait voulu se débarrasser, il lui avait demandé l'héritage. Pour quelle raison? Parce qu'il trouvait qu'il mettait trop de temps pour mourir. Car quand on réclame l'héritage à son Père, c'est qu'on lui dit, tu mets trop de temps à mourir. C'est vrai. Au fond, le fils prodigue, mentalement, il avait tué son père. Le père aurait pu être mort, mais voilà. Le père était encore vivant, et le père était encore son fils, malgré que son fils avait déshonoré son nom en vivant avec les prostituées. Et en dissipant son bien, le Père, dans son cœur, dans son amour, n'avait pas changé. Il était toujours le même, il montait sur sa tour pour voir si son fils ne revenait pas. Un jour, il a vu un mendiant qui s'approchait, un homme en haillons, et il l'a reconnu. Ce fils qui était parti dans de beaux habits, le père a reconnu sous ses haillons son fils, et il n'a eu qu'une chose dans le cœur, aller à sa rencontre. trouvez pas que c'est merveilleux, un père pareil. Le père est allé à sa rencontre. Il n'a pas attendu que le fils lui fasse des excuses ou lui dise quoi que ce soit. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a serré sur son cœur. Il n'a pas dit non, non, c'est trop sale. Non, il l'a pris comme il était. Et il l'a couvert de baisers, même s'il ne s'était pas douché depuis longtemps. Et il avait des curieux, des pourceaux. Alors, mes amis, c'est quelque chose de vraiment beau. L'accueil du Père, c'est ça l'accueil de Dieu. Et si Jésus nous a raconté cette merveilleuse parabole, c'est pour nous montrer qui était le Père. Car il parlait du Père. Vous savez, un Jésus qui ne vous conduit pas au Père, je doute que ce soit le vrai Jésus. Il y a un tas de gens qui parlent de Jésus, qui mettent le nom de Jésus à toutes les sauces. Mais le vrai Jésus, il ne nous garde pas pour lui, il nous donne au Père. Il nous conduit au Père. Et alors nous ne sommes plus des orphelins. Nous connaissons ce que c'est ce Père céleste. Nous connaissons sa divine étreinte et nous ne sommes plus en alliance. Donnez-lui la plus belle robe, revêtez-le de la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt. Vous connaissez cette merveilleuse histoire à laquelle je ne me suis jamais habitué. C'est tellement merveilleux. Tuez le veau gras, mangeons et faisons bonne chère. Et ce fils entend, mon fils que voici était mort. Le père n'était pas mort. Et la quantité de lui était mort. Lui, il était mort. Mais il est revenu à la vie. Et c'est vraiment cela une conversion. On revient à la vie. Et alors on se réjouit. Eh bien. J'ai parlé de la famille cet après-midi. Hier soir, nous avons parlé de Dieu dans les cœurs. Peut-être c'était un peu laborieux pour certains de suivre ce message hier soir. Alors, je me suis senti poussé à reprendre ces grandes vérités cet après-midi. Non seulement pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, mais encore pour ceux qui avaient déjà entendu le message et qui recevaient peut-être quelques éclaircissements sur ce que nous avions cherché à vous exposer, Dieu dans nos cœurs, en cherchant à connaître qui est ce Dieu qui nous demande notre cœur et en cherchant à comprendre ce qui est notre cœur. Ce cœur qui est trompeur si nous le gardons pour nous-mêmes, si nous en gardons la direction, si nous suivons les pensées de notre cœur naturel, nous allons vers la perdition. Et c'est ce cœur que Dieu nous demande pour mettre à la place un cœur nouveau. Ce cœur de pierre, ce cœur endurci, si nous le donnons au Seigneur, il nous rend un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. C'est une vie vraiment nouvelle qui commence. Avez-vous eu cette rencontre avec votre Père des cieux? Oui, ma conviction de péché, je le disais tout à l'heure, elle m'a été donnée quand j'ai compris qu'il voyait mes pensées. Et je me disais, si les gens qui me connaissent pouvaient savoir tout ce qui me traverse l'esprit, justement au moment de la puberté, au moment où nous grandissons, au moment où nous avons ses premières impressions en considérant l'autre sexe. Tout cela qui nous bouleverse, qui nous bouscule. Et puis, Voilà que le Seigneur me montre aussi, chaque fois que j'ai convoité, que chaque fois que j'ai une pensée de jalousie, tout cela c'est péché. Et que si je garde vraiment mes pensées, je ne suis pas sûr qu'elles ne deviendront pas des paroles qui déshonoreront le Seigneur, et qu'elles ne deviendront pas aussi des actions, et qui pourront être vraiment coupables. Alors j'ai compris que ce qui me perdait, c'était de me garder moi-même. Et qu'est-ce que j'entendais dans l'Évangile ? Renonce à toi. C'est tout l'Évangile. Renonce à toi. Ce qui te perd, ce n'est pas la quantité des péchés que tu as faits. Parce que extérieurement, j'en avais pas assez beaucoup, selon le monde. Mais c'était de garder ma nature pécheresse, c'est cela qui me perd. Il voulait me donner une nouvelle nature. Et laquelle ? C'est Jésus. Et dans la lumière de la vie de Jésus, j'ai vu ma propre vie. Et j'ai eu honte, j'ai dit, non, s'il n'y a qu'une vie qui peut entrer au ciel, la vie de Jésus, la mienne n'y entrera jamais. Et il n'y a que la vie de Jésus qui pouvait entrer au ciel. Et encore aujourd'hui, il n'y a que cette vie-là. Alors l'as-tu cette vie de Jésus ? C'est pas efforce-toi de l'avoir, mais reçois Jésus. La vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et si tu as le Fils, tu as la vie en toi. Mais la vie, c'est pas quelque chose, c'est une personne. C'est quelqu'un. Eh bien oui, j'ai entendu en écoutant votre cantique ces voix d'outre-tombe, voix de ma mère, de mon père, leur musique. Et j'ai béni le Seigneur, et spécialement arrivé à l'âge qui est le mien, où je puis dire avec le psaume 71 que je m'applique pour toute cette année. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, et ta puissance à la génération future. C'est vraiment les sentiments qui animent mon cœur. Et c'est mon histoire. Tu as été celui qui m'a instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Mais pour quelle raison ? Mais parce que j'ai eu des parents qui ont prié, qui ont intercédé, qui m'ont éduqué, qui n'ont pas craint de me punir, si cela était nécessaire. Nous savions encore ce que c'était que la discipline. Et la crainte de faire de la peine à nos parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu prolonges tes jours sur la terre. Moi, je vais mourir à 18 ans, selon les médecins, et pourtant je suis encore là. Mais pour quelle raison ? Parce que lui l'a voulu. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut. Et alors, nous avons donc une expérience pour annoncer à d'autres les merveilles de sa parole. Dieu dans la famille. Est-ce qu'il est dans vos familles ? Est-ce qu'il est dans la famille ou hors de la famille ? S'il est en vous, il est aussi dans la famille. On aurait pu vous parler j'ai cité plusieurs exemples de familles où Dieu régnait. J'ai parlé spécialement de la famille de Josué, qui pouvait dire à la fin de sa course, « Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison. » C'est beau ça, hein? Un père âgé, un père qui sait qu'il va mourir, qu'il suit le chemin de toute la terre, comme il dit, eh bien, il peut encore parler au nom de sa maison. C'est beau. Au nom de ses enfants, au nom de tous les siens, devant tout Israël, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a encore autorité sur ses enfants, sur ses petits-enfants, comme Joseph, et qui avait jusqu'à la quatrième génération de sa descendance sur ses genoux. Quelque chose de merveilleux. Vous pouvez, grand-papa d'ici, vous pouvez encore vous occuper de vos petits-enfants, ou même de vos arrière-petits-enfants, si vous en avez. Et vous en occupez comment? En cherchant à leur faire aimer Jésus. Et vous, grand-maman, vous pouvez faire la même chose. On pourrait parler de la grand-maman de Timothée, Loïs, comme aussi Denis, qui s'étaient mis ensemble, la mère et la grand-mère, pour élever ce petit garçon que l'apôtre Paul a remarqué dans une assemblée, tout jeune qu'il était, comme on peut remarquer des jeunes aussi ce soir, qui chantent de tout leur cœur. Et vous savez, ça fait du bien de voir non seulement des personnes d'un certain âge, des mamans, mais aussi des enfants qui déjà chantent les louanges. Je ne sais pas ce que vous avez éprouvé, mais je suis très reconnaissant que vous veuillez préparer ces cantiques pour exalter le Seigneur. Non pas pour vous mettre en avant et vous glorifier, mais pour glorifier le Seigneur. Et vous avez prononcé les paroles de telle manière qu'on pouvait les comprendre. Et c'est cela qui est essentiel. Que l'auditoire puisse entendre. Et il y a des paroles justement que peut-être à un moment donné notre fille on ne peut pas chanter encore parce qu'on ne les vit pas, mais au moins ceux qui sont au Seigneur et qui font partie d'un chœur, d'une chorale, eh bien il faut qu'ils puissent réaliser les paroles qu'ils chantent. Et cela, on le sent. Qui s'est vécu. Dieu dans la famille, la tâche de la mère, avant 5 ans, mes amis, occupez-vous de vos petits-enfants. Demandez au Seigneur peut-être de vous délivrer d'une autre tâche. Mais ne confiez pas vos enfants à n'importe qui, et surtout pas à la télévision pour qu'ils restent tranquilles. Parce que vous remplissez, même si vous dites qu'ils ne comprennent pas, vous remplissez leur intérieur de ces images, et tôt ou tard, ça se manifeste. Vous détruisez votre enfant. Mais c'est tellement facile, on les débarrasse comme ça, ils sont tranquilles, une bonne émission. Et quelle émission? Vous savez, la télévision, c'était peut-être une fille du ciel, mais le diable s'en est emparé. Je crois que l'homme est de la race de Dieu, et que toutes ces inventions, un jour, elles serviront, mais dans le royaume, quand celui qui fera les programmes sera le Seigneur. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait les programmes? La plupart du temps, on y voit des homosexuels, des lesbiennes et tant d'autres choses. Alors, c'est eux qui vous influencent, c'est eux qui projettent ce qu'ils pensent dans vos cœurs, ce qu'ils pensent par vos oreilles. Et puis pour finir, eh bien, on est en train d'être détruit et on détruit notre génération qui ne voit que la violence, les meurtres, les viols, la nudité, qui est quelque chose de sacré. Le corps, c'est Dieu qui l'a fait, c'est quelque chose de sacré. Un professeur, l'autre jour, on me l'a dit à Hertzla, et qui travaille pas si loin d'ici, dans les Laurentides, disait qu'en venant de l'Ontario, il a dû prendre une école pour y enseigner, et que les petits bambins de 7-8 ans se masturbaient dans les toilettes, et puis ensuite, des propositions à des petites filles de 7 ans déjà, pour leur dire de montrer vous savez quoi, et qu'ils voulaient les instruire sur ce que l'on peut faire avec certains jouets qu'on a, pas besoin d'acheter au magasin, on les a sur soi. C'est terrible, hein? À 7 ans, et c'était une grand-maman qui me disait cela, qu'elle avait dit à sa petite-fille, tu sais, comme ton papa ne croit pas encore au Seigneur Jésus, mais que toi tu l'aimes parce que tu as entendu parler de lui, je t'en ai parlé, et tu pries tous les jours pour que ton papa vienne au Seigneur. Eh bien, ma petite, dis-moi, est-ce que tu as à l'école maintenant, est-ce que tu as déjà des garçons qui t'ennuient? Et la petite de 7 ans lui a dit oui. Oui, il y en a déjà. Ils m'ont demandé d'enlever mes culottes pour montrer mes fesses. Voilà. À 7 ans, et elle a fait dire ça à sa grand-maman. Et la grand-maman a pu l'instruire, a pu lui dire, mais c'est pas cela. Garde-toi. Et elle, elle a pu lui parler, mais sa propre mère, eh bien, ne l'enseigne pas, mais il y a peut-être la grand-maman. Dieu dans la famille. Vous me direz, oui, mais vous exagérez. Ce n'est pas vrai. Je n'exagère pas. Et il y a des gens ici qui pourraient vous en parler encore mieux que moi de ce qui se passe dans notre ville de Montréal ou au Québec. Je n'ai rien inventé quand je vous ai dit que c'était le Québec qui avait la palme au sujet des suicides d'enfants avant 20 ans. Et tous ces divorces, et ce qu'on n'entend pas plus tard que hier, j'ai écouté les nouvelles, puis immédiatement après, je n'ai pas la télévision, mais la radio, parce que je veux quand même savoir ce qui se passe, eh bien il y avait une émission qui suivait immédiatement, où une femme posait une question à un professeur quelconque, au sujet d'une fille, de sa fille, et on lui disait, vous savez, faut pas vous en faire, si elle épouse cet homme, eh bien, vous savez, c'est pas définitif, elle pourra en trouver un autre un peu plus tard. Et les filles sont mariées, on lui disait déjà qu'elle pourrait changer de partenaire. Alors, vous entendez cela partout? C'est cela la vie normale? Un couple qui vit ensemble, c'est pas vraiment la famille, c'est la famille. Alors tous ces enfants, et voyez-vous, je voyais un petit garçon, dimanche justement, dans l'Ontario, il a 4 ans, et on lui a donné la cassette où j'avais parlé sur les anges, je ne sais plus dans quel camp, si c'est au camp de Josaphat ou au camp de Gaston Jolin, j'avais fait des méditations sur les anges. Et ce petit garçon, il aimait tellement ses méditations sur les anges Et les six cantiques que je chantais, qui étaient les cantiques que ma mère m'avait appris. Alors il a dit à sa grand-maman, tu sais, et si M. Raffin vient un jour à Heurth, hein, moi je veux aller à l'assemblée. Et son père et sa mère, qui n'y viennent pas, eh bien, il les a amenés à l'assemblée. Il les a amenés le matin. Et puis, il y avait un repas, il y avait le culte, et puis après le culte, il y avait la conférence que je faisais. Et puis, ensuite, on avait donc la gap fraternelle, et à 2 heures, on m'avait demandé de raconter une histoire pour les enfants. Alors, tous les enfants étaient là, et j'ai raconté une histoire pour les enfants. Et ce petit était là, qui écoutait, et qui m'a rappelé, enfin, je ne me souvenais plus tous les cantiques que j'avais chantés, et il a dit, je veux aussi celui-là. Alors, on a chanté encore celui-là devant ses parents qui écoutaient. Puis, à la fin, eh bien, les parents ont dit, mais maintenant, on vous dit au revoir, on est content d'avoir été ici, mais on veut aller coucher notre petit, parce que il est quand même fatigué depuis ce matin. Ils sont partis avec l'auto. À ma stupéfaction, qu'est-ce que je vois? À 3 heures, ils étaient de nouveau là. Qu'est-ce qui s'était passé? Le petit gars, à un moment donné, dans l'auto, dit à son père, « Papa, je veux retourner à l'assemblée. » Je lui dis, mais mon chéri, on va se coucher, tu as besoin de dormir. Il n'a rien répondu. Et puis, au bout d'un moment, il dit, tu sais, maman, c'est vrai ce que j'ai dit. Je veux qu'on retourne à l'assemblée. Et les parents sont revenus pour entendre la dernière conférence. Un petit enfant, et qui prie déjà pour le salut de ses parents. Et le soir, quand je suis rentré tard, le père était là chez sa mère, qui m'attendait. Et vous savez, c'est quelque chose d'incroyable. Ce que Dieu peut faire avec un enfant pour amener père et mère à la foi. Il est dit, et j'y crois à cela, que c'est par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, de ceux qui têtent, par la bouche des petits enfants que Dieu a établi sa force, sa puissance. Et je crois bien que c'est pour cela que le diable fait tant d'efforts pour qu'il y ait le plus d'avortements possible. Pour qu'il n'y ait plus d'enfants, si on pouvait rayer les enfants. Parce que les enfants sont la force de Dieu. Alors il faut maintenant qu'il n'y ait plus d'enfants. Dieu dans la famille. Relisez les histoires de ces familles du Nouveau Testament. Quand Dieu entre dans un cœur, il entre aussi dans la famille. Emparez-vous de cette certitude. Si Dieu vous a sauvé et que vous faites partie d'une certaine famille, le Seigneur veut aussi sauver les membres de votre famille. Toi et ta maison. Quand Jésus est entré chez Zachée, il a dit, le salut est entré dans sa maison. Et pourtant, qui était Zachée? Un percepteur, hein? Un voleur, comme on l'appelait ce temps-là. Et puis on a jugé Jésus d'être allé chez un percepteur d'impôts, un publicain. Et on ne savait pas qu'une fois que Jésus serait entré chez le publicain, ce voleur rendrait tout ce qu'il avait volé. Le cœur de Zachée a été touché par la seule présence de Jésus. Et il a dit, je donne la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort, je rends au cadre. C'est ça que c'est merveilleux. Quand Jésus entre dans un cœur, tout change. Même un homme qui aimait l'argent, un voleur, il rend au cadre. Laissez entrer le Seigneur, dans vos cœurs, et alors petit à petit, vous le verrez dans votre foyer, capable de résoudre les problèmes les plus difficiles. Priez, prier. Vous voyez, je viens de vous lire quelque chose qui me concerne, le psaume 71. J'ai fait une prière. J'ai demandé au Seigneur, en me basant sur ce psaume, de me garder, de ne pas m'abandonner, même dans la blanche vieillesse. Est-ce que j'ai besoin d'attendre une réponse de lui dans l'avenir? Il m'a répondu sur l'heure. Quand on lui apporte une demande qui est selon sa volonté et qui est dans sa parole, qu'est-ce que nous devons croire? Que nous sommes exaucés. Et l'exaucement, je l'ai dans Ésaïe 46. Écoutez-moi, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, et c'est bien ce qu'il a fait, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Est-ce que je peux croire ça? Je serais incrédule si je ne croyais pas. Mais il n'y a pas de doute dans mon cœur. Il le fera jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons un Dieu qui nous répond. Alors nous pouvons le bénir. Dieu est une réalité. Dieu est une personne. Mais je voudrais dire juste une chose ici. Parce que je vous ai présenté Dieu, le Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, voulant habiter dans l'homme, créé à son image, esprit, âme et corps. Et peut-être que vous vous êtes dit, ben ça c'est pas pour moi. Le Dieu tout entier dans l'homme tout entier, possédant aussi mon corps en Dieu, eh bien en Jésus-Christ, ben, pour moi... C'est encore qu'un fragment, qu'une petite portion. Alors je ne voudrais pas que vous soyez découragés si vous vous disiez, ben pour moi c'est impossible. Et je voudrais tout de suite souligner que ce que je vous ai dit est vrai, que vous devez croire dans la connaissance de celui qui vous habite et découvrir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité tout entière en vous. Mais vous allez commencer, quand vous recevez le Seigneur, de connaître l'enfant spirituel. Jésus est d'abord un enfant en nous. Il a été enfant, mais il n'est pas resté enfant. Il est devenu adolescent. Il n'est pas resté le petit Jésus, toujours dans les bras de sa mère, comme l'imagerie vous le montrait. Il a grandi, il est devenu un homme fait. Et c'est ainsi que le Christ doit croître en nous. Il est d'abord enfant, nous faisons des expériences de l'enfance spirituelle, puis ensuite nous grandissons, nous sommes dans l'adolescence spirituelle, nous avons ça dans le chapitre 2 de la première épître de Jean, et puis ensuite nous devenons des pères, petits enfants, enfants, jeunes gens, et puis pères, mais toujours par cette vie du Christ qui croit en nous et qui nous révèle de plus en plus tout ce qu'il est. Le Père est en lui, le Père étant en lui, le Père est aussi en nous. Il possède l'Esprit sans mesure, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous habite aussi. Mais à nous de laisser ce Dieu vivant se manifester dans la plénitude de notre existence. Il regardera par nos yeux, il écoutera par nos oreilles, il servira par nos mains, il parlera par notre bouche. Il sera notre intelligence, il sera même notre mémoire. Une personne me disait ce soir qu'elle avait été encouragée parce que j'avais dit que le Saint-Esprit était notre mémoire. Et c'est vrai. Quand vous me dites que ça vaut pas la peine que je lise la Bible, que j'ai pas de mémoire. Hein? Mais ce n'est pas une excuse, continuez de lire votre Bible. Et le Saint-Esprit devient votre mémoire. Et c'est lui qui va vous rappeler dans un moment difficile une parole que vous avez lue dont vous ne vous souveniez plus. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit vous la rappelle avec force. Soit pour vous exhorter, soit en face d'une tentation, soit dans une grosse épreuve, nous sommes consolés. Instantanément, nous ne cherchons pas à piquer un verset dans la Bible au hasard, mais le Saint-Esprit est là, et si j'ai lu la Bible, si je lis la Bible, si la parole du Christ habite en moi richement, même si je ne m'en souviens pas, il me rappelle un texte. Et c'est cela qui fera votre encouragement et votre joie. Et alors, vous viendrez au culte dans l'église avec des actions de grâce, avec des louanges, parce que justement dans la semaine, en vous, dans votre vie sociale, comme aussi dans votre vie familiale, vous avez expérimenté la présence de Dieu. Mais Dieu est-il dans nos foyers? Ou est-il hors de nos foyers? Et là encore, je vous le rappelle, il y a peut-être des choses dans nos foyers qui doivent disparaître pour que le Seigneur ne soit plus contristé, que le Saint-Esprit ne soit plus contristé. Le Saint-Esprit est contristé souvent en nous voyant, par exemple, des œuvres devant nos idoles. Nous avons là notre poste, et puis le sport, les acteurs, ceci, cela, les chanteuses, et que sais-je encore, sont devenus nos idoles. On ne peut, pour ainsi dire, plus s'en passer. Quand j'étais au Vietnam, ce sont les missionnaires américains qui m'ont dit leur peine. Ils m'ont dit, quand on retourne aux États-Unis, après des années, c'était encore avant la fin de l'occupation du Vietnam, eh bien, on retournait aux États-Unis pour parler un peu de cette année passée en mission. Elle disait, alors on visitait des églises très évangéliques. Mais le pasteur nous disait, bien voilà le programme, on commence à 8h, jusqu'à 8h20 nous aurons des chants, des numéros spéciaux, et puis ensuite je ferai des annonces, et vous finirez, alors vous aurez 8h30 à 9h-10, vous terminez là, parce qu'à 9h, les gens veulent se rendre pour voir leur programme à la télévision. Alors il disait, nous avions 20 minutes seulement pour exposer ce qui remplissait nos cœurs. On nous donnait une grosse enveloppe, ah des sous on en avait, mais ce n'était pas pour de l'argent qu'on était venus. Mais on était tellement devenus esclaves de ces programmes, on ne pouvait pas s'en passer. Alors on venait quand même à l'église parce que ça faisait mieux, mais il fallait à telle heure, on ne manque pas son programme. C'est quelque chose de terrible. On est devenu esclave. Alors combien de temps passez-vous devant votre idole? Puis évidemment, il faut prévoir aussi un peu. Alors on s'oublie. C'est quelque chose de terrible. J'espère que nous aurons compris qui est Dieu, celui à qui nous devons donner notre cœur. C'est un Père qui est saint, c'est un Père qui est juste, c'est un Père qui est miséricordieux, mais c'est aussi un Père glorieux, le Père de gloire, un Père des lumières. Toutes choses sont nues et découvertes au-dessus de celui à qui nous devons rendre compte. Un Père qui est éternel, ce Père des esprits auquel nous devons être soumis toujours. Et alors maintenant, j'en arrive à l'église. Je ne vais pas m'allonger sur ce qu'est l'église. Ce n'est pas mon but de vous faire une méditation sur l'église tout en disant Dieu dans l'église. Je voudrais être très simple. Qu'est-ce que l'église? J'espère bien que vous n'êtes plus de ceux qui pensent simplement à une bâtisse, à un bâtiment.
L'église, ce n'est pas un bâtiment. Nous sommes heureux d'être dans cette salle qui est un lieu de culte, un lieu providentiel. Mais l'église, ce n'est pas la salle. L'église, c'est tout autre chose. La première fois que Jésus a parlé de l'église, c'est à Césarée de Philippe, ce qu'on appelle aujourd'hui Bagnas, quand il a demandé à ses apôtres de lui dire « Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que vous pensez de moi ?» Et l'apôtre Pierre a répondu « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est là qu'il ajoute « Je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église, littéralement sur ce roc. » Et on est étonné de voir maintenant, enfin, la plupart des théologiens catholiques qui disent que la pierre angulaire sur laquelle est bâtie l'église, c'est le Christ lui-même, dans leur livre en tout cas. Et même quand le pape est venu au Québec, c'est ce qu'il a dit en arrivant à Québec, qu'il venait pour témoigner de la foi de Pierre, qui avait dit que le Christ était le Fils du Dieu vivant. Et il a posé cette question, quelle est votre relation personnelle avec le Dieu vivant? Oui, même le pape. Alors moi, je me suis réjoui quand j'ai entendu ça. Mais quand j'ai dit cela en Italie, ce que le pape avait dit ici, les Italiens m'ont dit, bien, il peut bien dire ça au Québec, mais on voudrait qu'ils le disent aussi en Italie, n'est-ce pas? Ou on continue de dire que l'Église est bâtie sur Pierre, que c'est l'Église de Pierre. Mais pourtant ici, et vous l'avez dans des documents, il a dit clairement que la pierre c'était Jésus. Alors si quelqu'un, même un pape, dit une chose comme ça, eh bien moi je m'en réjouis parce que c'est biblique alors. Et puis il a cité, il n'y a de salut en aucun nom, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel que Dieu ait donné aux hommes par lequel il nous fallait être sauvés. Il est la pierre angulaire. Il a cité Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Et même il est allé plus loin, nous montrant comment Pierre lui-même avait compris la chose. Il a cité l'épître de Pierre, la première épître, au chapitre 2e, où il dit que le Christ est la pierre qu'on avait rejetée et qui est devenue la pierre angulaire, et que nous tous qui croyons, nous sommes des pierres dans l'édifice, qui est un temple spirituel. Alors on se réjouit quand une vérité est dite, n'est-ce pas? Quelquefois il entend un coq pour réveiller une âme, c'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. D'autres fois, il emploie une annette. Alors, il peut bien employer aussi des hommes d'église. Alors, nous devons nous réjouir pour toute vérité qui sort de la bouche de l'homme. Mais ce qui nous afflige, c'est qu'on ait de langage dans un pays où il y aura beaucoup de protestants, beaucoup d'anglais, et qui ne sont pas romains. Alors, on a l'air d'être assez évangélique, assez biblique. Mais dans un pays où l'on règne encore, eh bien, on laisse coupir les gens dans l'ignorance. Mais, chers amis, ce n'est pas à nous de juger les hommes. Aucun. Chacun sera jugé par le Seigneur. D'après nos prétentions, et moi aussi, je dis comme l'apôtre Paul, je parle de mon Dieu en Christ. Je sais que mon premier auditeur, c'est Dieu, et qu'il connaît les motifs de mon cœur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église n'était pas encore bâtie, n'existait pas, au moment où le Christ a prononcé cette parole. Je bâtirai mon église. Il y avait la synagogue, mais la synagogue n'était pas l'église. L'assemblée du désert n'était pas l'église. Même si le mot assemblée est le même, l'Église ne pouvait naître que de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est ainsi que nous enseigne la parole. L'Église est née après la mort et la résurrection du Christ. Quand est-ce qu'elle est née? Quand est-ce qu'elle a été fondée? À la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu et a baptisé en un seul corps ces enfants de Dieu dispersés, ces individus qui étaient les apôtres, chacun était individualiste. Jusque-là, chacun voulait avoir la première place, un à la droite, l'autre à la gauche du Seigneur. On se demandait qui serait le premier dans le royaume. Et on voit qu'ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Et une fois que le Christ est ressuscité et qu'il est monté dans la gloire, les disciples l'ont vu partir. Et quand il est parti le jour de l'Ascension, qu'est-ce qui est parti avec Jésus? Leur cœur. Hein? Leur cœur est parti avec Jésus. De sorte qu'un chrétien, c'est un homme qui a, comme je le dis souvent, les pieds sur la terre, la tête sur les épaules, mais le cœur dans le ciel. Hein. L'objet de nos affections est un objet céleste. Alors on peut s'aimer les uns les autres. On ne cherche plus à avoir une place ou la meilleure place. Vous pouvez me prendre ma place. Ça n'a aucune importance pour moi. J'ai une place qui est préparée auprès de mon Seigneur. Et ça me suffit de savoir que je serai à ses pieds. Être à ses pieds. Tous les saints se tiennent à ses pieds. Et là, il y a de la place pour tous. Ni à droite, ni à gauche, mais aux pieds du Seigneur, comme il l'est dit dans Deutéronome, chapitre 33. Est-ce que vous avez une place dans le ciel? Est-ce que votre trésor est dans les cieux? Alors, si votre trésor est dans les cieux, si Jésus remplit votre cœur, de ce que le cœur est rempli, qu'est-ce qui se passera? La bouche? De l'abondance du cœur, la bouche parlera. Mais il faut qu'il y ait cette abondance du cœur. Et vous devez chercher dans la semaine à vous nourrir pour qu'il y ait une abondance dans votre cœur. Alors le dimanche matin, quand vous vous réunirez pour le culte, eh bien il y aura une abondance de louanges. Une explosion de louanges et d'adoration. Car l'Église, fondée le jour de la Pentecôte, où nous voyons tous les croyants réunis avec Marie, avec les femmes, dans la chambre, c'était là qu'ils attendaient la promesse du Père, et qui leur avait dit qu'il leur enverrait un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui viendrait la puissance sur eux pour remplir leur ministère, accomplir le témoignage que le Seigneur désirait. Jésus leur avait dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous dans peu de jours. Restez là à Jérusalem et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, la Galilée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est parce que cette parole s'est accomplie que nous avons maintenant l'Évangile. Des hommes ont apporté l'Évangile par la télévision. Quand je pense, mes amis, aux moyens de Dieu, c'était des hommes de chair comme nous. Il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons. Mais vous savez qu'en 30 années de Jérusalem, l'Évangile avait passé à Rome, la capitale du monde de ce temps-là, en passant par Athènes, la capitale de la sagesse humaine, et par Corinthe, qui était la capitale de la luxure de ce temps. Il y avait des lupanards, il y avait tout ce que vous voulez, toutes les abominations se trouvaient à Corinthe. Eh bien, l'Évangile a été annoncé à Corinthe, et il y a eu une église qui s'est formée. Et alors, que veut dire Église? Église, ecclesia, c'est les appelés hors d'eux, ceux que Dieu a appelés hors d'eux. Hors de quoi? Du monde. Hein? nous faisions partie de la carrière du monde, le Saint-Esprit a opéré, nous avons entendu la parole, et nous sommes comme une pierre qui a été détachée de la carrière du monde, et puis le Seigneur nous a taillé, il nous façonne lui-même avec son ciseau, c'est lui qui est l'architecte, et nous sommes devenus une pierre dans l'édifice. Il nous place où il le veut, et ce qu'il taille davantage, c'est pour en faire vraiment des pierres d'angle, comme il l'a dit dans un psaume, ornementées selon le style du palais. Mais à mesure que le Seigneur nous façonne, à mesure que nous passons par cette épreuve de la taille, eh bien, le Seigneur mesure vraiment tous ses coups, parce qu'un coup trop fort, ça pourrait détruire son ouvrage. Ceux qui sont du métier le savent très bien. Alors, nous avons affaire avec un Dieu de mesure, il sait ce qu'il fait, c'est pas moi qui choisis ma place, c'est lui, et c'est une grâce qu'il nous ait choisi. Alors, chaque personne qui se convertit, qu'elle vienne du judaïsme ou qu'elle vienne du paganisme, était une pierre qui était posée sur la pierre angulaire. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons lu hier, notre frère l'a lu au début de la réunion. Jésus-Christ, c'est le fondement, et moi, je n'ai pas un autre fondement à poser, hein. Nous avons le fondement Jésus-Christ, mais maintenant nous construisons sur le fondement. Chaque âme qui vient au Seigneur, eh bien, est posée sur le fondement, sur Jésus-Christ. Et quand une âme vient au Seigneur, le Seigneur la délivre, comme nous l'avons vu, de ses péchés. Il a le pardon, l'âme a le pardon de ses péchés. De la crainte du jugement, nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne venons plus en jugement. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Oui. N'est-ce pas? Nous ne venons plus en jugement. Et puis, quant à la mort, nous ne la craignons plus. Je dirais que c'est un accident de parcours. Parce qu'elle est déjà vaincue. La mort, elle est déjà vaincue. S'il faut mourir, nous nous endormons dans la certitude de la résurrection. Mais ce n'est pas la mort que nous attendons. Nous attendons Jésus. Il a vaincu la mort. La mort n'a plus de terreur. On le chante dans un temps. L'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Et quand on marche avec le Seigneur, comme Enoch peut-être, eh bien, nous serons de ceux qui entreront dans la gloire sans avoir à passer par la mort, parce que nous attendons Jésus qui revient du ciel, parce qu'il a promis son retour, et ses promesses il les accomplit, et il transformera en un instant, en un clin d'œil, le corps de notre abaissement, la conformité de son corps de gloire. Nos corps aussi, ces corps de souffrance, ces corps de chair, ces corps faibles et misérables, le Seigneur nous a acquis la rédemption aussi de nos corps à la croix. C'est pourquoi il a dit que nous sommes sauvés en espérance. Oui, nous avons la certitude du salut, mais notre salut, nous le posséderons en plénitude au bout de la course, comme prix de notre foi. C'est pourquoi on est sauvé par la foi et pour vivre chaque jour une vie de foi. Et alors, pour que nous puissions grandir dans la foi, il a donné des ministères à son Église, à ceux qui ont été appelés hors du monde et qui se réunissent dans le monde sans être du monde. Nous avons plusieurs images pour nous rappeler ce qu'est l'Église. L'Église, je dirais, dans ses relations avec le Père Céleste, qu'est-ce que c'est? Elle est comparée à la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et si nous avons le même Père, que sommes-nous les uns pour les autres? Des frères et des sœurs, pas des cousins éloignés. Hein? Des frères et des sœurs. Et nous devons nous reconnaître comme frères et sœurs, puisque nous avons le même Père. Mais ce Père, nous ne l'avons qu'en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Alors, étant nés de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu a maintenant une famille. Et les membres de cette famille, il veut les rendre semblables à qui ? À son Fils unique. Et le Fils est venu pour que le Père ait une famille. Une famille d'hommes et de femmes qui ressemblent à son Fils, c'était à cela que nous étions prédestinés. Alors, donc, ces relations avec le Fils, l'Église est comparée à quoi? À un corps. Nous sommes le corps de Christ. Et vous avez ça dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, le corps de Christ. Lui est la tête glorifiée dans le ciel, et chacun de nous, nous sommes les membres de ce corps. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Et vous savez, quand le Christ reviendra en gloire, il sera vu dans son unité merveilleuse, la tête et le corps. Alors ça veut dire qu'avant son retour en gloire, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit prendre à lui les membres de son corps. Il va d'abord ravir auprès de lui, il revient sur les nuées du ciel, il appelle tous ceux qui sont morts dans la foi, qui sont ressuscités premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, parce qu'il y a une génération qui sera vivante au retour du Seigneur, en un instant, en un clin d'œil, nous aurons des corps de gloire, semblables au Seigneur, et nous nous en irons avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, non pas pour flotter dans l'espace, mais pour connaître l'attraction céleste qui va nous délivrer de cet espace où l'on flotte. Les hommes arrivent à s'arracher de la traction céleste, mais ils n'arrivent pas à connaître l'attraction céleste. Il faut aller plus haut, aux cieux des cieux, plus loin. Et c'est avec des corps de gloire que nous pouvons être arrachés de l'espace et nous irons dans les aimables demeures de la maison du Père. Mais ces aimables demeures, nous devrions déjà les connaître. Nous devrions déjà en penser, nous y trouver, là où tout est lumière, où tout est paix, dans ce temple où tout est gloire. Il nous faut penser aux choses qui sont en haut. Il nous faut nous affectionner aux choses qui sont en haut. C'est là notre patrie. Quand vous préparez un voyage, quand vous allez partir en voyage, vous vous documentez sur le pays que vous ne connaissez pas, où vous irez, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je veux aussi me documenter. Et c'est par la parole qu'on se documente, qu'on apprend ce qui concerne les choses célestes, l'au-delà, ce qui nous attend, la vie que nous aurons avec le Seigneur. Et quand nous aurons tous passé devant le tribunal du Christ, non pas pour être jugés quant à nos âmes, mais quant à nos œuvres. Parce que depuis notre conversion, ma vie, à qui appartient-elle? Elle appartient au Seigneur. Alors nos œuvres comptent. Et ce Seigneur que nous avons connu comme le Créateur, puis que nous avons connu comme le Rédempteur, nous allons le connaître comme le Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a pour les croyants une récompense qui les attend selon la fidélité qu'ils auront montrée depuis leur conversion. Faut pas dire, oh ben moi je suis sauvé, j'ai mon salut dans ma poche. Qu'est-ce que c'est votre salut? Votre salut c'est pas quelque chose, c'est pas un passeport, c'est pas un billet pour le ciel, c'est pas une police d'assurance contre l'incendie éternel. C'est quelqu'un, comprenez-vous? C'est le Seigneur lui-même qui habite en vous. Alors, quelle joie de penser déjà à ces choses qui sont en haut. Là où Christ est assis. L'apôtre Paul était subjugué par cela. Alors vous savez, quand vous pensez beaucoup à ces choses, qu'est-ce qui pourrait vous arriver d'avoir comme une vision de ces choses? Mais quand vous allez regarder ce qu'on vous montre à la télévision, qu'est-ce qui peut vous arriver dans la nuit de faire des drôles de rêves que vous n'aimeriez pas toujours raconter? C'est la raison, parce qu'on s'est rempli des visions de convoitise, de mensonges, de violence. Alors c'est pas étonnant qu'on ait des rêves, des cauchemars et tout ce que vous voulez. Mais quand vos pensées sont occupées des choses d'en haut, le Seigneur peut aussi vous visiter et remplir vos cœurs, vous réveiller dans la nuit et vous faire entendre ces paroles, une émission du ciel. C'est beau, hein? Ça peut vous arriver. Et alors, cette émission du ciel sera toujours en accord avec l'Écriture. C'est comme ça que vous pouvez savoir. Donc, nous sommes le corps de Christ. De quoi suis-je membre? Je suis membre de son corps. Et alors, comme dans un corps, tous les membres ont besoin les uns des autres, j'ai besoin de vous, comme vous pouvez avoir besoin de moi. Nous, nous appartenons les uns. Et qui est-ce qui nous dirige? C'est la tête qui est dans le ciel. Alors, vivez dans ces relations. À ces relations avec le Saint-Esprit, l'Église est comparée à ce temple spirituel. Et il est dit qu'elle est l'habitation de Dieu par l'Esprit. Voilà ce qu'est l'Église. Alors souvenez-vous bien de cela. Hein? Quand vous serez réunis demain dans ce lieu pour adorer le Seigneur, qui est maître de cérémonie? C'est le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la liberté. Pas la liberté de jaser, hein? Ou de dire n'importe quoi, ou d'ajouter notre cantique préféré, mais la liberté de pouvoir exprimer ce qui est dans notre cœur. Il y a donc plusieurs réunions dans l'Église, des réunions différentes, et je dirais encore que dans ses relations avec le monde, l'Église est comparée comme la maison de Dieu. L'Église, dans sa responsabilité dans ce monde, c'est la maison de Dieu. Alors, dans la maison de Dieu, il ne se passe pas n'importe quoi. Et on n'introduit pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. D'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est juste, d'un Dieu qui est lumière et qui est amour. Il ne se fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et il est dit que sa maison, c'est nous qui formons sa maison. Alors, quand vous vous réunissez, eh bien, le Seigneur permet que des dons se manifestent. Je ne vais pas allonger là-dessus, mais il a donné pour l'édification de l'Église des dons aux hommes. Et chacun de nous, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et nous le recevons quand nos cœurs sont touchés, et que nous ne lui résistons pas, et que nous nous convertissons au Seigneur, alors le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Et les dons qu'il nous donne ne sont pas des dons naturels sublimés, car quand on va au Seigneur, il conduit notre chair où? À la croix. De sorte que nous avons passé par le baptême dans sa mort, et si nous sommes vivants, nous vivons de la vie même de Jésus, d'une vie nouvelle. Et les dons de l'Esprit ne sont pas des dons naturels sublimés, mais sont des dons surnaturels. Il nous donne pour l'édification de son Église. À l'un, il a donné le don de connaissance, à un autre, il peut donner le don de sagesse, à un autre aussi, le don de foi, qui n'est pas la foi qui sauve, mais
cette foi qui transporte les montagnes et qui est là pour aussi édifier l'Église, un frère qui a une mesure de foi plus grande peut-être qu'un autre. Et puis, à d'autres encore, le don de guérison, mais la vraie guérison divine, qu'on n'exploite pas à tort et à travers. Et puis, à un autre, il a pu donner le don du discernement des esprits, ou même, j'y crois aussi, au don des langues, mais c'est le dernier des dons, et il faudrait non pas que ce soit simplement du charabia, mais que ce soit vraiment une langue, et qui ait aussi son interprétation. Je n'interdirais pas de parler en langue si c'est une vraie langue. Et si cela est fait dans les normes bibliques. Mais hélas, quand on voit comment on essaye de vous faire parler en langue dans certains milieux, eh bien, vous comprenez bien vite que c'est truqué. Parce que c'est pas parce que on programme les gens qu'ils ont le don surnaturel. On essaye maintenant de vous faire parler en langue par des leçons qu'on donne à la télévision. Vous voyez, moi j'ai la télévision pour apprendre à parler en langue. C'est là la justification. Alors on me programme et on me dit quelle syllabe je dois commencer à prononcer, à répéter. Et alors vous aurez ainsi le don des mots. C'est quelque chose de terrible de voir cette manipulation des foules. Et puis, on vous demande de l'argent, tout ce que vous voulez, et on vous fait croire que vous aurez plus que les autres. Eh bien, non.